Radio Capi. Oh, Capi.
Le journal, Pascal Masirika.
Les titres de l'actualité, 10 personnes tuées, 4 blessées et d'autres prises en otage. Bilan de l'incursion des présumés miliciens de la Codeco au village de Kwero entre Djougou et Mahagi en Ituri. Avant de se retirer, les assaillants ont pillé plusieurs biens des habitants de la zone. Poursuite de la campagne électorale pour la deuxième semaine consécutive. Les candidats président de la République, Moïse Katumbi-Chapo, étaient hier à Mbandaka, Adolphe Mouzito et à Tshikapa, Martin Fayulu Madidi à Kalemie dans le Tanganyika, tandis que le président Félix Tshisekedi Tshilombo a suspendu sa campagne pour 3 jours. Notre invité, c'est la gestionnaire du centre de santé mentale Téléma de Kintambo ici à Kinshasa. Révérende sœur Elisabeth parle de la prise en charge des malades mentaux au sein de cette structure médicale. Madame, messieurs, bonsoir. En Ituri, 10 personnes ont été tuées samedi soir par des présumés miliciens de la Codeco au village de Kwero entre le territoire de Djougou et celui de Mahagi. Selon des sources locales, 4 personnes ont été blessées et d'autres prises en otage par les assaillants qui ont également pillé les biens des habitants avant de se retirer de la zone. À Bounia, le récit de Jean-Claude Lokidile.
D'après des sources concordantes, les habitants de Kwero et des villages proches dont Pigwa et Nzonzo ont été surpris dans leur sommeil par ces miliciens. Ce fut la débandade. Certaines personnes ont réussi à s'échapper, laissant derrière elles tous les biens qui ont été par la suite emportés par ces rebelles. Quelques personnes ont été abattues dans leur maison à la machette ou à l'armée blanche. Un acteur politique avance ce bilan de 10 morts dont les corps ont été acheminés à Muguma, Ndawe et Kalingwa. Ces hommes armés ont réussi à emporter plusieurs biens, dont des marchandises, dans des boutiques, des moutons, des chèvres ainsi que des poules. Un notable dans la zone indique que parmi les victimes figuraient également plusieurs blessés. D'autres habitants ont été pris de force pour transporter les biens volés. Ces miliciens seraient venus d'Agbessé, un village voisin. Les corps de ces civils, parmi lesquels au moins un enfant, ont été inhumés hier dimanche, explique un habitant. Les autorités locales déplorent l'absence des FRDC dans une dizaine de villages, la CUSR, ce qui permet à ces miliciens d'opérer en toute quiétude. Bounia, Jean-Claude Loki, Dile Radio Capi.
Au Nord Kivu, pendant 7 ans, 300 militaires du contingent kényan de la force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est se sont retirés hier dimanche de l'Est de la RDC depuis l'aéroport international de Goma après 1 an de déploiement. Jusqu'à présent, aucune déclaration n'est faite pour les 3 autres contingents de l'EAC. Pour en parler, retrouvons à Goma Rosalie Zawadi.
Ce retrait de l'EACRF répond à la décision issue du 23e sommet des chefs d'État de l'EAC tenu le 24 novembre à Arusha en Tanzanie, affirme l'EACRF sur son compte X officiel. C'est aussi sur demande de la RDC de ne pas renouveler son mandat au-delà du 8 décembre 2023. Jusqu'à présent, aucune communication n'est faite au niveau de la province sur les autres contingents de cette force régionale. C'est notamment les Burundais déployés sur l'axe territoire des Masisi, les Sud-Soudanais déployés avec les Kenyans sur l'axe Nyiragongo-Rumangabo-Tongo et les Ougandais qui, eux, sont déployés sur l'axe Bunagana-Rutshuru-Kiwanja-Mabenga. Selon les explications du quartier général de l'EACRF, ce retrait se fera progressivement en commençant par les unités non essentielles sans d'autres détails. La même source précise tout de même que ce retrait est l'une des étapes de la transition avant que l'EACRF transfère ses responsabilités en matière de sécurité dans l'est de la RDC aux forces de la SADC. Rappelons qu'excepté les contingents burundais, tous les autres contingents travaillaient déjà dans la zone occupée exclusivement par le rebelle du M23. Goma, Rosalie Zawadi. Radio Capi.
Nord Kivu, encore une accalmie précaire est enregistrée cet après-midi autour de la cité de Sake et celle de Mushaki dans les territoires de Masisi après des violents combats survenus ce lundi entre les FARDC, les groupes armés et les rebelles du M23 dans le village proche des deux cités. Selon des sources locales, des tirs à l'arme lourde et légère diminuent en intensité actuellement. Seulement voilà, ces affrontements d'aujourd'hui ont jeté sur la route beaucoup d'habitants de la zone. À Goma, Bernard Denyangui.
Plusieurs sources civiles affirment que les détonations s'éloignent quelque peu cet après-midi des cités de Sake et Mushaki. C'est après des violents combats qui ont été rapportés dans la matinée entre 5h et la mi-journée dans les collines surplombant les localités de Malé et Katembe, non loin de Kingi, environ 15 km de Sake. D'autres tirs étaient aussi entendus dans les villages Murambi, Kitabiro et Fermeruvunda, près de Mushaki. Les populations locales ont même parlé de quelques balles qui sont tombées dans la cité de Mushaki. Ces sources parlaient des attaques simultanées des positions des FARDC et des groupes armés locaux par les rebelles du 1-23 qui ont commencé hier dimanche avant de se poursuivre ce lundi. Mais ces sources affirment que la tentative des rebelles de déborder les positions de l'armée pour accaparer des collines surplombant Mushaki aurait été repoussée. Des centaines de familles ayant fui ce combat affluent déjà dans la cité de Sake et d'autres arrivent jusqu'à Goma. Le porte-parole du gouverneur promet de s'exprimer incessamment sur la question. Goma, Bernardin Yangi, Radio Okapi.
L'actualité sur Radio Okapi, c'est aussi la poursuite de la campagne électorale pour la deuxième semaine consécutive. Le candidat président de la République, Moïse Katumbi-Tchapwe, était hier à Mbandaka où il a tenu un meeting populaire. Adolphe Mozito est à Tchikapa depuis hier soir, tandis que Martin Fayulu-Madidi est arrivé à Kalemi dans la province du Tanganyika. Pour sa part, Félix Tshisekedi-Tshilombo a suspendu sa campagne électorale pour 3 jours afin d'honorer la mémoire des Congolais qui ont péri lors de son meeting tenu vendredi après-midi à Mbanzangungu. Enfin, André Massalou a lancé sa campagne hier à Boma. D'autres précisions avec vous, Michel Kefindangoy.
Devant les habitants de Mbandaka, le candidat numéro 3 à la présidentielle a promis de réduire les trains de vie des institutions en supprimant notamment le poste de la première dame et de la maison civile du chef de l'État afin d'accorder des salaires décents aux enseignants, aux militaires et policiers. Moïse Katumbi s'est présenté comme un homme d'action et non de promesses, disposé à soulager la misère de la population de l'Équateur, notamment la réhabilitation des routes, l'électricité, l'eau, ainsi que des emplois pour les jeunes sont parmi ses priorités. D'un candidat à l'autre, Adolphe Mozito a demandé aux habitants de Tshikapa de lui faire confiance, car une fois élu à la tête du pays, il trouvera des solutions aux problèmes auxquels font face les Congolais. Pour sa part, Martin Fayulu a préféré donner la parole à quelques personnes qui se sont exprimées sur le problème qui touche les Kalemiards. Le candidat numéro 21 a donc promis de revoir à la hausse la solde des militaires s'il est élu président de la République. De son côté, André Massalou a promis aux Bomatraciens de moderniser l'administration publique, promouvoir l'agriculture, l'élevage et la pêche pour assurer l'autosuffisance alimentaire.
Et puis les consortiums CEPAS, INADES Formation et Bouteli Acte 2023 et Pona Congo recommandent vivement aux candidats aux élections de décembre prochain et à la députation nationale et présidentielle d'axer exclusivement leur communication de campagne sur les projets des sociétés. Déclaration faite dimanche après-midi dans la commune de Massina lors de leur sensibilisation sur les outils d'aide au vote en faveur de jeunes et autres personnes qui ne s'intéressent pas du tout aux élections. Ces organisations ont appelé en même temps les femmes et les jeunes à voter utile. Un reportage de Jean-Désiré Kanyama rendu ici par Bleuze Shindani Kambala.
Pour ces organisations, le vote est un droit et un devoir civique. Bien plus, l'avenir du pays en dépend d'après les sensibilisateurs. Plami Mayemba, chargé de communication de la plateforme Action des citoyens pour la transparence des élections 2023, appelle la population congolaise à identifier les véritables députés nationaux par leurs projets de société.
Et le vote, nous voulons que ce soit un vote qui ne soit pas influencé par les 5 000 francs, les 10 000 francs, les polos. N'est pas regardé aux promesses fallacieuses. Le député ne construit pas des routes. Donc, la population doit plutôt voir les projets de loi. Qu'est-ce que ces députés-là prévoient d'élire comme loi au Parlement?
Satisfaite par cette sensibilisation dans son quartier, Claudine Mumbeni, une des participantes, promet de voter utile à la prochaine élection.
En premier, il nous montre qu'on ne peut plus avoir peur. Tu vois que le vote a été volé, tu peux dire non et réclamer. Et puis, il nous démontre que c'est un droit. Parce que nous étions découragés avec la façon dont les élections se déroulaient. On vote ou pas, on n'y croyait plus. On peut partir ou pas, il y aura toujours des autorités. Et donc, on a compris que c'est notre droit et notre devoir de bien voter.
À l'initiative de CEPAS, en partenariat avec INADES Formation et Bouteli et les réseaux Pona Congo, cette campagne est financée par l'Union européenne. Sa première étape a été les communes de Ngaba, Lemba et Makala dans la ville de Kinshasa.
Place au Maniema maintenant. Des acteurs politiques et des organisations de la société civile ont été outillés ce week-end sur la culture démocratique et l'alternance politique. C'était au cours d'un atelier organisé à Kindu par la Coalition des femmes leaders et le Conseil régional des ONG de développement sous la facilitation du professeur Casimir Ngoumbi Kitete. Cet enseignant en sciences politiques et administratives a rappelé à l'occasion aux participants l'attitude à adopter pendant cette période de la campagne électorale. Il est au micro de Florence Kizalunga.
Vous savez que nous sommes en période électorale et puis soucier d'éclairer la lanterne des électeurs et des candidats. D'abord la culture démocratique, d'abord la culture elle-même qui est un ensemble de valeurs, de traditions, de mœurs, de coutumes. Coller à la démocratie signifie beaucoup de choses. Intérioriser pratiquement les fondamentaux de la culture démocratique qui sont notamment le respect de règles, qui sont notamment la connaissance de la loi, comme je venais de le dire là-bas, particulièrement la tolérance qui permet aux uns aux autres de comprendre que lorsqu'on est en compétition électorale, c'est une activité sociale comme les autres, comme le football, où Barça et Real de Madrid jouent, il y a un entraîneur, il y a des coachs de part et d'autre, il y a les règles du jeu qu'il faut respecter afin qu'on gagne la coupe qui est à côté, surtout que lorsqu'on est en finale. Et donc c'est important, mais aussi aller plus loin que ça, considérer que ce qui se passe au Congo ne divisera jamais les Congolais.
Sur Radio Okapi ce soir, 5 personnes ont été grièvement blessées dans un éboulement survenu dimanche après-midi sur le site minier d'un Zébi dans le territoire de Djougou. Le bourgmestre de la commune rurale affirme à Radio Okapi que les rescapés ont été retirés des décombres dans un état plutôt critique, puis acheminés au plus vite à l'hôpital de Mongualou. Jean-Pierre Bikilisende a été joint par Martial Kizabiamungu.
De la zone minière de Mongualou, les environs de Mongualou, il y a Pamba, il y a Lycéi, Pluto, Pilipili Dala, 37, Andissa. Je leur dirais de faire très attention par rapport à leur sécurité, surtout à cette saison pluvieuse. Ce qui vient de se passer au site minier 37, que les Européens appellent communément 17, ça nous fait mal au cœur. Nous avons perdu. Je dirais de faire très attention par rapport à leur sécurité, surtout à cette saison pluvieuse. Ce qui vient de se passer au site minier 37, que les Européens appellent communément, de faire très attention. Je sais qu'ils sont bien organisés, ils connaissent leur travail, ils ont leur DT, directeur technique, ils savent comment ils s'orientent quand il y a des travaux et prévenir les dangers. Je leur demanderai d'être très attentifs et d'écouter les conseils de leur directeur technique pour éviter que nous ayons ce type d'accident.
Coup d'envoi au sud Kivu de la réhabilitation de la route nationale qui va de Bukavu à Mwenga. Les travaux sont exécutés par l'office de route avec le financement du Fonds national d'entretien routier, FONER. Les habitants saluent l'exécution de ces travaux sur cette route d'intérêt économique. À Bukavu, la correspondance d'Emmanuel Elmejouakabedi.
C'est le gouvernement provincial du Sud Kivu qui a lancé les travaux à partir de Tubimbi en territoire de Walungu. L'office de route y effectue les travaux mécanisés entre Bukavu et Mwenga. Alain Mugangu, directeur intérimaire de l'office de route.
Les travaux sur la RN2 axe Bukavu-Mwenga-Kamituga consistent à supprimer tout d'abord les bourbiers et à mettre une couche de roulement afin de faciliter le trafic. Pour le moment, nous commençons à Tubimbi, mais nous allons aussi progressivement attaquer les bourbiers de Kilungu, mais également des Munzele qui sont devenus des casse-têtes pour les usagers de cette route. Malgré les pluies, nous allons nous y mettre pour que les travaux avancent aussi vite que nous pouvons.
Le moi Mikalenga Riziki de la chefferie de Basile en territoire de Mwenga s'en réjouit et revient sur l'importance de cette route.
La population du territoire de Mwenga a longuement tiré la sonnette d'alarme par rapport au délabrement très avancé de cette route nationale numéro 2. Et voilà aujourd'hui, le chef de l'État a donné une solution à la population du territoire de Mwenga. Lorsque la route est dans un état de délabrement très avancé, il y a des conséquences manifestes qui impactent sur les vécus quotidiens même de la population. Notamment, en tout cas, la hausse des prix.
Emmanuel Elameji Wakabedi, Bukavu Radio Okapi.
Et dans la topo, les inondations font des ravages actuellement. Après Banalia, localité située à 128 km au nord de la ville de Kisangani et certains quartiers du chef-lieu de la province. Ces inondations touchent actuellement le territoire d'Isangi. Selon les statistiques révélées par la zone des santé, 20 867 ménages sont affectés par le débordement de la rivière Lomami et du fleuve Congo. Pour en parler, retrouvons à Kisangani Jacques Mkonkole.
Les 20 867 ménages affectés sont issus des 18 villages inondés. 8 églises et 2363 latrines sont détruites, 3 routes coupées et 3285 enfants de moins de 5 ans exposés à différentes maladies. Les personnes de troisième âge vivant en situation difficile sont évaluées à 1086, note le rapport de la zone de santé d'Isangi, lequel indique également que des champs sont dévastés par les eaux en furie et des sources d'eau englouties. En conséquence, difficile pour la population d'évacuer à ses occupations habituelles, regrette l'administrateur du territoire assistant en charge des questions économiques, financières et développement. Selon Jérôme Walala, face à cette situation, le bâtiment administratif se trouve présentement sous l'eau et le marché d'Isangi déplacé. Afin d'épargner les populations de diverses maladies et de la famine, la société civile locale en appelle à une assistance humanitaire, aussi bien de la part du gouvernement provincial et ou central que des acteurs humanitaires. Rappelons que les inondations frappent Isangi pour la troisième fois consécutive au cours de cette année, après celle de février et mai dernier. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Le président Bissau-Guinée a dissous le Parlement après avoir dénoncé le ce week-end une tentative de coup d'État. Oumaru Sissoko Imbalo reprend donc la main à Bissau 3 jours seulement après des affrontements qui ont semé la panique dans la capitale. Ce lundi matin, le chef de l'État Bissau-Guinéen a donc décidé de dissoudre le Parlement dominé par l'opposition.
L'invité.
Notre invitée, c'est la gestionnaire du centre de santé mentale Téléma de Kintambo, ici à Kinshasa. La révérende sœur Elisabeth parle de la prise en charge des malades mentaux au sein de cette structure médicale. Elle s'entretient avec Babel Mpongo Masimango.
Oui, monsieur, on trouve ici avec beaucoup d'articles. Qu'est-ce que vous avez exactement?
Bon, ben voilà, ce que nous présentons normalement, c'est les travaux réalisés par les malades mentaux pour leur réinsertion. Donc là, nous avons les sacs, les porte-clés, les poupées, l'arbre de Noël, des petits trucs où arranger les chaussures, plein de petites choses. On a des napperons, des petits trucs pour attraper les marmites au feu quand c'est chaud, des chaînes.
Comment ça se passe, au fait? Qu'est-ce qui est facile? Qu'est-ce que vous rencontrez comme difficulté?
Le centre de santé mentale, Téléma Kitambo. Mais nous avons également un autre centre de santé mentale au Pont Matete. Voilà, comment ça se passe? Il y a certaines familles, ils constatent peut-être que leur membre, leur enfant, a un comportement bizarre. Ils s'approchent de nous, on fait une consultation, accompagnée du psychologue aussi, une équipe multidisciplinaire, pour voir un peu de quoi il s'agit et orienter vers un traitement. Cette première phase-là, c'est facile. Quand le malade vient accompagné par sa famille, la prise en charge est également. La famille peut s'en occuper à 100% ou à 70%, mais c'est déjà bon. D'autres malades viennent déjà attachés. Vous savez aujourd'hui aussi qu'il y a des toxicomanes qui vont par-ci, par-là. Donc, ça veut dire que ça dépend de quoi il s'agit. Et alors, quand ils arrivent accompagnés par leur famille, on a moins de soucis. Il y a d'autres, quand ils viennent très, très, très agités, alors c'est un peu difficile parce que là, à Téléma Kitambo, on a quelques chambres quand même pour observation, pour 2, 3, 4 jours maxi, une semaine, prendre les premiers soins. Et une fois qu'il est stabilisé, il peut sortir et il continuera le traitement à la maison, participer au rendez-vous. Et alors, la partie la plus difficile, c'est que nous avons également une maison d'accueil, Bethany, pour l'accueil des malades mentaux de la rue. Et alors, c'est nous qui détectons, ou certains volontaires, puisqu'ils savent qu'on fait ce genre de travail-là, ils nous font part. Nous allons à la rencontre de ces malades. On entre en amitié, parce qu'il faut d'abord une bonne négociation. Hein. Si la malade accepte, il vient au centre Bethany. Et là également, c'est toujours la consultation. Alors, si c'est peut-être c'est l'épilepsie, psy ou d'autres psychoses, et alors on entre en traitement. Donc le premier, deuxième mois, c'est faire ce traitement-là et voir si le malade récupère pour pouvoir nous donner quelques indications où est sa famille, elle vient d'où, etc. Maintenant, la chose la plus difficile, c'est la réinsertion. Quand nous, on rentre en contact avec la famille, Des fois, il nous est très, très, très difficile de pouvoir réintégrer le malade en famille. Parce que les familles n'acceptent pas. D'autres vont te dire que non, c'est une sorcière. Et d'autres, elles ne veulent même pas. D'autres jeunes, on est obligés de commencer peut-être certains volontaires, de leur demander s'ils peuvent nous aider à accueillir ce ou cette jeune. Mais dans l'entretemps quand même des 3 mois que je vous ai parlé, la jeune est en train de faire justement ses petits travaux, apprendre à faire un peu de couture, peindre, apprendre à faire telle autre chose. Mais la réinsertion, c'est très compliqué.
À quelle autre difficulté vous rencontrez dans la
difficulté, justement, c'est le traitement des malades mentaux. C'est-à-dire que trouver les médicaments des psychiatres, c'est pas si évident que ça. Et ça coûte très cher parce que là, c'est une spécialité. Ce qui paye, ça donne quand même une certaine compensation parce que nous nous achetons en conditionnement hospitalier. Nous pouvons les revendre et récupérer notre argent d'achat. Mais ces malades de la rue et ceux qui sont à l'atelier, ce n'est pas souvent évident.
Un appel que vous aimeriez lancer, des personnes, des structures qui pourraient vous donner un coup de main.
Je dirais qu'en fait, comprendre premièrement que la maladie mentale, c'est une maladie comme les autres. Donc nos frères, nos sœurs qui ont ce problème-là, recevons-les comme toutes les autres maladies. Ce n'est pas toujours la sorcellerie, n'est-ce pas, qui guide ces malades-là. Donc on sait que quand on a une perturbation mentale, il y a quand même un fonctionnement qui est aussi anormal. Alors, quand on retrouvera un malade mental, amenons-le à l'hôpital et montrons-lui que nous l'aimons. Parce que c'est surtout aussi ça qui fait que des fois on plonge et puis bon, on ne s'en remet pas. Celui qui est en route là, c'est mon frère, c'est ma soeur. Alors, ne faisons pas semblant de passer sans le voir, il est là. Merci, au revoir.
C'était l'invité de Radio Okapi, la gestionnaire du centre de santé mentale Telema de Kitambo ici à Kinshasa, révérende sœur Elisabeth, a été interviewée par Babel Mpongo Massimango et c'est la fin de cette édition. Merci d'avoir écouté.